Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité cyber. Alors aujourd'hui, un épisode spécial NSC, la conférence qui a eu lieu il y a quelques jours. Les contributeurs Nos Limites Sécu aujourd'hui sont Jean-François Audenard.
Oho !
Nicolas Ruff.
Bonsoir.
Et moi-même, Johan Ulloa. Donc aujourd'hui, comme je le disais, un épisode spécial NSC. Nico, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui caractérise cette conférence ?
Je crois que la caractéristique de SwitchCon, c'est que c'est une conférence en anglais et très très technique. Donc l'anglais permet de faire venir des speakers internationaux et du coup on a accès à du contenu technique, on va dire, un peu cutting edge, quoi. Moi, je tiens aussi à préciser à l'audience que je fais partie du comité d'organisation, donc je serais peut-être un petit peu biaisé.
D'accord. C'est la deuxième occurrence de cette conférence.
Oui, alors en fait, c'est une conférence qui est plus ancienne que ça, qui avant s'appelait HES. HES continue à exister, mais une bonne partie du staff en fait est partie il y a 2 ans et demi pour faire NSC. Donc effectivement, c'est que la deuxième de NSC. Mais c'est quand même une conférence qui a un certain nombre d'années d'expérience en organisation derrière.
D'accord. Jeff, qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié au cours de cette conférence ?
Alors moi, ce que j'ai apprécié, c'est le côté technique. Clairement, t'arrives là, tu sors. J'ai pas pu assister à l'ensemble, j'en ai fait que 2 jours et demi, et ben tu prends ta dose. Il n'y a pas bullshit marketing, hein, et ben ça fait partie de la baseline, et ça, clairement, c'est respecté. J'ai apprécié la keynote, hein, où t'arrives à la keynote, normalement, c'est la première conf, donc on y va doucement. Là, ça fait waouh, tu te dis. Est-ce que je me suis pas trompé de place ? Je laisserai Nico réagir. Mais globalement, mis à part quelques 2 confs ou 3 où j'ai pas trop accroché, c'était top. C'était top, c'était d'un contenu dense. Peut-être que c'était peut-être pas très orienté menace. Ça parlait assez peu malware et compagnie, mais ça faisait peut-être partie de la sélection éditoriale, hein, et ça aussi Nico pourra peut-être nous en dire plus, c'était peut-être normal, mais sinon c'était un bon équilibre entre tech, enfin des sujets nouveaux sur sécurité de tout ce qui est internet des objets, sujet très à la mode, hein, tout ce qui est les bases de données en mémoire, technologie SAP HANA. Des nouveaux sujets, des trucs bien, on s'embêtait pas réellement, et puis aussi ça a bien parlé crypto, j'ai bien aimé l'intervention de Jean-Philippe Aumasson sur les backdoors MD5, SHA-1 et consorts, ça c'est, on arrivait à cette conf, on se disait, oh là là, je vais prendre cher, et non. Il explique les choses d'une façon, c'est intéressant, c'est ludique, tu ressors avec quelque chose, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant.
Merci Jeff, je transmettrai au comité d'organisation. Bah, c'est clair que, bon, de toute façon, sur les conférences, c'est assez. On essaie de couvrir tous les sujets. Maintenant, c'est clair qu'il peut y avoir une ou deux surprises, des conférences assez inégales. D'ailleurs, il y a des gens qui nous ont reproché que cette année, ce soit quand même un peu moins technique que l'année dernière.
Ah.
Dans le sens où tu pouvais quand même comprendre les conférences de l'année dernière. Non, mais je me souviens qu'on a eu 2-3 trucs sur l'exploitation de Heap Overflow dans Windows 8 où, en gros, tu avais 70 slides et en slide 3, tu as commencé à rentrer dans les captures WinDBG et après, c'était fini, quoi. Mais, bon, sinon, on peut. Enfin, j'ai trouvé effectivement que cette édition était quand même plus équilibrée. Alors, j'avoue que j'ai pas pu suivre toutes les confs parce que je faisais aussi partie de l'organisation derrière. Mais celle que j'ai vue, c'était, enfin, comme celle d'Aumasson dont tu parlais, était quand même assez compréhensible pour un sujet qui n'est pas forcément évident. Et j'ai bien aimé aussi celle sur la crypto quantique parce que c'est aussi un sujet où c'est rapidement, tu peux rapidement perdre les gens, soit avec des équations, soit tu peux rapidement les bullshiter avec la menace du futur, etc. Et ce que j'ai aimé dans cette conf, c'est qu'en fait, il se connecte en telnet sur un véritable ordinateur quantique qui tourne dans une université anglaise et il fait des manips réelles, quoi. Donc, c'est zéro bullshit, quoi. Et ça montre un peu les limites de la technologie et en même temps ce que tu peux faire à l'heure actuelle.
Et alors, qu'est-ce qui change d'un on va dire, d'un ordinateur traditionnel?
Dans un ordinateur quantique, en fait, il y a un certain nombre de choses étranges. Par exemple, tu peux pas consommer d'énergie. Si tu consommes d'énergie, ton système n'est pas adiabatique, donc il n'est pas réversible, donc tu peux pas faire de. Enfin, ça veut dire que tu perds de l'information sur l'état, quoi. En fait, tu fais tous les calculs simultanément, et c'est au moment de la mesure, en fait, où tu vas obtenir un résultat parmi tous ceux que tu as calculés. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de différences. Je t'avoue que là, ce serait peut-être un petit peu perdre le public que d'essayer de refaire la conférence, mais sans les slides, qui étaient assez graphiques. Mais disons que c'était une conférence originale par rapport à la moyenne de ce que j'ai pu voir sur la crypto-quantique.
Toi, Jeff, quelle est la conf qui t'a particulièrement marqué?
Moi, la conf qui m'a particulièrement marqué, ouais, j'ai bien aimé celle sur USB Armory. La petite clé USB avec, c'était quoi? C'était une puce Cortex, je sais plus, M3 ou M4, où tu peux faire tourner en mode embarqué un Linux. Ça vraiment sur FR avec carte flash, ça te dit ouais, je veux ce machin là, je le veux pour Noël. Bon, j'ai demandé au mec et il m'a répondu sur Twitter et il m'a dit ah non mon gars, c'est pas encore pour tout de suite, faudra que t'attendre. Et vraiment cette conf, j'ai trouvé très sympa, et j'ai aussi trouvé bien très intéressante la conf de la personne de Sogeti, je me souviens plus de son nom, sur tout ce qui est la sécurité des bornes à courant porteur. Là aussi, ça ouvrait un peu les yeux. Tu te dis non, c'est pas possible. Et si. Et j'ai aussi amené intérêt assez notamment intéressant lors de cette conf le Myth Killer qui dit bah tiens normalement. Quand tu utilises du courant porteur, ton compteur électrique, c'est un peu comme le filtre ADSL, il coupe tout. Et non, parce que le monsieur, il nous a expliqué que il arrivait à capter les communications de ses courants porteurs situés dans l'appartement d'à côté. D'accord. Donc ça aussi, ça ouvrait un peu les choses. Et voilà, j'ai trouvé les deux interventions particulièrement percutantes. Ah voilà, après c'était ma sensibilité personnelle. Et j'ai bien aimé aussi le côté SAP HANA, là, les in-memory database. Fondamentalement, rien de nouveau, mais en mettant tous ces ingrédients dans le même système, ça ouvrait de nouvelles perspectives. Et j'ai trouvé ça aussi particulièrement intéressant.
Oui, c'était Sébastien Dudek, l'orateur sur le courant porteur. Mais en fait, tu vois, ce que j'aime bien aussi dans cette conf, c'est que il y a du code, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un module SCAPI et le mec te fait une démo avec deux plugs. C'est pas, on pourrait se mettre dans un camion et on pourrait capter une émission tempeste et machin, quoi. C'est le gars, il vient avec sa multiprise et il fait une démo.
Exact, c'est comme Mimikatz, pareil. Là, c'est Mimikatz, waouh, tu t'en prends plein les dents. Et effectivement, le côté démo live est assez particulier et c'est rare de le voir comme ça. Parce que le plus souvent, les speakers, ils sécurisent les choses, ils arrivent avec des vidéos. Et là, non, là, il y en a beaucoup qui arrivent avec des démos live. Et bon, t'as bien évidemment l'effet démo et heureusement, je sais plus, Nico, t'es arrivé en tant que grand sauveur sur, je sais plus, le PC défaillant ou je sais pas quoi. Mais les démos, ça fonctionnait bien, c'était compréhensible et c'est live. Et ça, c'était top.
Ouais, c'est comme la conf d'Alex Ionescu. Il fait des démos live sur son système avec le debugger kernel attaché. Ouais. Mais il n'a pas de machine virtuelle. C'est-à-dire qu'il tape des commandes sur sa machine où il présente ses slides et il modifie des paramètres sur son... À un moment, il met un paramètre et ça bloque l'exécution de toutes les applications sur son système. Et celles qui sont déjà lancées ne s'arrêtent pas. Donc, en fait, il relance son application et il désactive le paramètre. Mais si à ce moment-là, sa machine se bloque, je ne sais pas comment il fait, quoi.
C'est du sans filet.
Oui, exactement. Bon, après, il y a eu effectivement, du coup, quelques cafouillages. Typiquement, la machine qui se verrouille pendant la démo et puis le speaker. En fait, c'est moi qui prêtais la machine, donc le speaker n'avait pas le mot de passe, etc., quoi. Et ça prouve que c'est du live.
Il y a une conf que j'ai particulièrement appréciée, c'est la conf des gens de Nancy sur BGP.
Elle a été reprise dans l'intelligence online, celle-là.
Où il vulgarisait bien les problématiques. Déjà, il réexpliquait en gros comment fonctionnait BGP. Donc, même si tu n'avais pas des notions de réseau, tu pouvais comprendre et assimiler les problématiques qu'ils évoquaient. Je trouve que c'était vraiment... La presse était vraiment très très bien faite.
Bah, surtout que là encore, c'est zéro bullshit. C'est-à-dire que la semaine d'avant, en fait, le netblog de la DCSSI, enfin nouvellement Annecy, mais qui est encore DCSSI dans Louise, s'était fait hijacker. Et il y avait eu des articles dans la presse, etc. Et là, les mecs viennent t'expliquer qu'en gros, les hijacks BGP, ça sert essentiellement à récupérer des adresses IP fraîches, enfin pas blacklistées, pour faire du spam. Et ils n'essayaient pas de te vendre de la cyber state sponsor de Zero Hour Attack, machin, quoi. Ils t'expliquent juste que c'est des spammers qui veulent faire une campagne et qui hijackent trois adresses pendant 1 heure et c'est réglé, quoi.
Et j'ai bien aimé la démarche aussi, quelles avaient été les problématiques au cours du temps. Au départ, ils avaient eu plein de résultats, il a fallu qu'ils dégrossissent, etc. Ils ont bien expliqué leur démarche et je trouvais ça vraiment très, très intéressant.
Mais surtout qu'ils viennent en fait se faire un piggyback sur un projet du RIPE qui s'appelle Atlas, où en fait ils déploient des sondes chez tous les AS pour pouvoir faire des mesures de trace route depuis les différents AS et pouvoir confirmer que ce que tu vois d'un endroit du réseau, c'est bien ce qui se passe ailleurs dans le réseau aussi, quoi. Enfin bon, ça c'est indépendant de l'ANSI, mais c'est quand même un projet intéressant, je trouve.
Alors, en ce qui concerne les à côté de la conférence, Nico, le soir, par exemple, il y a eu un social event.
Ouais, alors le jeudi soir, il y a eu un social event pas très loin là sur les quais à Stalingrad, dans une boîte de nuit qui s'appelle La Rotonde. Et ça a été, je sais pas comment on pourrait dire ça, ça a été la concentration de toute la SSI parisienne. Moi, j'ai vu des gens que je vois sortir de chez eux une fois tous les 5 ans. Je ne suis même pas sûr qu'ils avaient des tickets pour la conférence d'ailleurs. Mais c'était vraiment l'occasion de. Enfin, si tu cherchais quelqu'un qui faisait de la sécurité en France, il était là. Après, sinon, il y a eu plein d'autres trucs un peu. Enfin, on essaye toujours de mettre un peu d'animation dans la conférence, puisque comme tu as des gens qui viennent de loin, bon, évidemment, visiter Paris, ça a quand même un intérêt en soi. Mais enfin, au mois de novembre, il fait pas non plus super beau. Et donc, on essaye de faire des petits trucs à côté. Donc, il y avait un hackathon sur l'antivirus français. Tu avais bière et café gratuits pendant 3 jours. Alors ça, la bière gratuite, ça a beaucoup impressionné les autres conférences. Hein. Enfin, j'ai vu ça sur Twitter, en tout cas. Puis, tu avais bah, pas mal de stands de sponsors, mais qui l'a joué un peu intelligent et qui était venu avec des trucs sur leur stand, qui faisait un peu l'animation, quoi. Je pense à l'Osir qui était venu avec des préservatifs, par exemple.
Spécial pentester, hein, c'est ça. Hein.
Exactement.
Et
Moi, je sais pas.
assez étonnamment, excuse-moi Nico, je te coupe, j'ai trouvé que le côté, tiens, au fur et à mesure, les présentations étaient publiées online pour les avoir durant la conf, on avait la possibilité d'accéder aux slides, ça, je trouvais ça super sympathique.
En fait, ça c'est surtout pour les gens qui suivaient la conf en streaming, parce qu'il y avait environ 200 personnes de connectées sur le stream. Alors après, je ne sais pas exactement combien il y avait de personnes derrière, parce qu'en fait, tu peux connecter un relais qui lui-même va après rebroadcaster sur tes gens en interne, et donc ça compte comme une seule connexion, mais tu ne sais pas combien il y a de personnes qui regardent. Mais globalement, c'est vrai que sur la vidéo, par exemple, dès que tu as un screenshot d'assembleur ou de débuggeur, un truc comme ça, c'est relativement illisible. Donc, l'année dernière, on avait trouvé que mettre les slides, en fait, ça permettait de faire en sorte que les gens suivent plus facilement le streaming. Parce qu'on n'a pas les moyens de se payer non plus un studio professionnel avec, tu sais, les slides d'un côté, et puis la vidéo de l'autre, et puis l'enregistrement du son en parallèle, quoi.
Et une question là, on va avoir les vidéos de disponibles pour YouTube pour pouvoir se les repasser le soir l'hiver quand on est en manque de techno pour se repasser un peu de crypto quantique. Je pense que Johan, ça va lui plaire. C'est prévu ça ou c'est dans les bacs?
Ah, techniquement, les vidéos existent, donc faut juste faire un peu de post-prod, tu sais, pour couper le, enfin pour faire le montage, quoi. Couper le début et la fin, vérifier que le son soit bon, parce que des fois le truc est débranché, il n'y a pas de son, mais si tu regardes pas la vidéo, tu t'en rends pas compte. Des détails comme ça. Bon, après, il y a, je sais plus combien, 40 ou 50 gigas à uploader, donc il faut une bonne connexion aussi. Mais techniquement, c'est prévu, ouais.
Bon, donc on peut espérer, c'est une très bonne nouvelle et je pense que nos auditeurs en seront ravis.
Ouais, surtout que l'année dernière, on avait déjà tout streamé avec une plateforme plus ou moins commerciale, et qu'en fait, on n'avait pas coché la bonne case, donc en fait, le stream n'a pas été enregistré. Mais c'était pas du tout voulu, quoi. On s'en est rendu compte le dernier jour en essayant de récupérer les fichiers, quoi.
Ah, ça c'est dommage. Et alors, c'est quoi la c'est quand la prochaine édition? L'année prochaine, même date, même endroit, même heure. Ou pour le moment, c'est encore secret?
Écoute, c'est secret, mais je pense que je peux donner du leak aux auditeurs, ils ont bien mérité. Je pense que l'année prochaine, ça va être compliqué. Déjà, la date du mois de novembre, elle ne va pas du tout pour les Français, parce que c'est la période de l'année où toutes les SS2I font leurs chiffres avec les queues de budget des grosses entreprises. Enfin, tu sais ce que c'est?
Ah ouais.
Ensuite, bon, venir à Paris au mois de novembre, c'est pas. Enfin, les gens, à la limite, en décembre, ils font leurs courses de Noël, tu vois, mais en novembre, il fait juste moche, quoi, il n'y a rien de particulier. Et puis, il y a quand même de la concurrence. Maintenant, j'ai vu que Stick commençait à accepter les soumissions en anglais. Donc, si Stick se met à faire venir des speakers en anglais, enfin, je ne sais pas si les talks à Stick seront en anglais. Mais en tout cas, les soumissions sont ouvertes en anglais. Donc, à partir de là, voilà. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse sérieusement. Bon, l'équipe d'organisation est quand même assez fatiguée aussi. Non, mais je veux dire, c'est un boulot à temps plein. Alors, cette année, on a pu compter sur des gens formidables comme Thomas Alix, par exemple, qui est thésard et du coup, qui nous a bien aidés. Mais en supposant qu'il n'y ait plus de temps l'année prochaine, je sais pas si... À chaque fois, ça compte sur la bonne volonté des gens, quoi. C'est pas des événements professionnels où les gens sont salariés. Et voilà, c'est compliqué, quoi. Le bénévolat, c'est compliqué. Surtout quand tu te confrontes à des organisations comme celle des Assises ou du FIC, où là, c'est des vraies équipes de professionnels qui travaillent toute l'année pour faire un événement. Bah, du coup, forcément, tu vois, les sponsors, cette année, ils nous ont tous dit « Hey, tout le budget est allé aux Assises, quoi. » Et tu peux pas lutter contre ça. Voilà. Donc, s'il y a une nouvelle édition, ce sera probablement en printemps. Et pour l'année prochaine, ce sera trop court. Donc, il y aura peut-être une édition en printemps 2016. Mais bon, on verra bien. Mystère.
Bon, bien, on espère que cet épisode vous aura intéressé. Et on vous dit à très, très bientôt. Salut.
Salut.
Salut.